Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 5. La mère d'Anita frappa à la porte avant qu'aucune question ne puisse être posée. Le bruit des prothèses contre le contreplaqué de la porte est reconnaissable entre tous quand on l'a déjà entendu une fois. La respiration d'Anita se calme directement. Ses yeux pleins d'un besoin inextinguible de tendresse se fixent à la porte. Ses paumes se contractent sur le matelas en matière plastique du petit lit de l'infirmerie, et le temps se dilate d'une manière presque insupportable. Personne ne dit rien. Sa mère est une femme très polie. Malgré l'angoisse qui est la sienne et que son enfant perçoit à travers la porte, elle ne s'autorise pas à céder à l'envie d'entrer violemment, par effraction, avec bruit et fracas, comme l'a précédemment fait l'institutrice qui gît encore à terre dans les bras mous de l'instituteur. L'infirmière les regarde pour leur dire silencieusement de se lever, et une fois que ceux-ci l'ont fait et ont réajusté leurs vêtements comme un couple d'adolescents pris en flagrant délit dans un jardin public, elle prononce d'une voix claire et étonnamment assurée les deux syllabes salvatrices. « Entrez !» Son ton est enjoué, à peine faux. L'image est saisissante pour qui ne connaît pas la mère d'Anita, ce qui est le cas de l'infirmière. Celle-ci ne peut s'empêcher d'avoir un léger mouvement de recul, un millième de seconde d'incontrôle. La porte s'ouvre lentement sur une femme assez grande, aux cheveux épais, lui tombant en cascade sur les épaules. Les yeux de l'infirmière vont naturellement du visage de la femme, harmonieux et un peu austère, à ses cheveux, puis à ses épaules, et poursuivent leur voyage très rapide et instinctif vers les mains. L'infirmière se rend compte à ce moment-là que ses yeux procèdent toujours de la même manière quand quelqu'un se présente à elle, c'est-à-dire entre dans son champ de vision, visage d'abord, puis mains, puis vêtements. Les yeux qui voulaient aller directement aux mains butent légèrement sur les coudes, qui semblent gonflés, et l'aspect un peu luisant des bras, pour s'écarquiller sur ce qui devrait être la main droite. En lieu et place de celle-ci, lui, un crochet, auquel est suspendu par la lanière un sac qui se balance légèrement. La main gauche, qui a ouvert la porte et redescend lentement le long du corps de sa propriétaire, manque légèrement de fluidité, et c'est en plissant légèrement les yeux cette fois-ci que l'infirmière comprend qu'il s'agit là aussi d'une prothèse, d'une finition plus naturelle. La mère d'Anita a bien vu les yeux effrayés de la jeune infirmière, mais elle ne s'en formalise pas, parce que l'habitude l'a modelée à ne plus s'offusquer d'être détaillée, et surtout parce que l'inquiétude ne lui laisserait pas la place de s'y attarder. Ses yeux se fixent directement sur sa fille, petite chose assise sur le lit au matelas en plastique, du sang sur son t-shirt vert anis, les pieds se balançant dans l'air alourdi par une drôle d'énergie que dégagent les deux instituteurs qu'elle a déjà croisés plusieurs fois. Dans sa tête sonne de manière très claire, presque trop limpide, la voix de son enfant. « Maman !» Enjouée, lumineuse, débordante d'espoir et d'amour, cuivrée de fatigue et de tristesse. La mère d'Anita a un léger sursaut en l'entendant. Aucun son n'a été émis. Elle a entendu la voix de sa fille alors que son corps n'a rien perçu et que l'atmosphère lourde de l'infirmerie n'a été brisée par aucun cri, comme si... Qu'importe. L'émotion doit lui jouer des tours, alors elle secoue la tête vivement, semblant dire non à la situation, non aux explications à venir, non à tout. Je veux juste rentrer chez moi avec mon enfant.
Lui donner un goûter, un bon bain, passer le début de la soirée à regarder un dessin animé avec elle, lui faire des pâtes aux tomates cerises ce soir parce qu'elle adore ça, et lui lire une histoire avant de la coucher, ce que je ne fais plus que rarement parce qu'en général je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, mais là, votre coup de fil m'a foutu une de ses frousses et puis elle n'a pas l'air bien, ma pauvre gamine chérie, s'il vous plaît, ne faites pas un mouvement, je la prends, on s'en va et on n'en parle plus jamais.
Bien entendu, ses souhaits à peine formulés par son hochement de tête vigoureux qui résonne dans ses cheveux épais et brillants ne sont pas respectés. C'est l'infirmière qui ouvre la bouche la première, et la mère d'Anita est à la fois surprise et amusée, et surprise d'être amusée, par l'énergie qu'il y a dans cette voix, sa façon de taper les consonnes, de rendre les voyelles courtes, droites et claires. C'est une jeune fille qui doit venir de la ville ou qui y est allée et en est revenue, gardant avec elle cette manière limpide et énergique de parler des gens de la ville, cette attention un peu snob portée à la juste prononciation, à une articulation légèrement démesurée.
Bonjour madame, j'imagine que vous êtes la mère d'Anita. Je sais que la situation peut paraître inquiétante. Toutefois, je ne pense pas qu'il y ait des raisons de se faire du souci. Anita a été un peu bousculée dans la cour tout à l'heure. Puis s'est sentie faible en classe et a perdu connaissance. Elle a aussi saigné du nez. Je pense que c'est dû à l'émotion, mais il est évident que votre médecin généraliste sera plus à même que moi d'en juger. Aussi, je vous conseille d'aller le voir sans trop attendre. Pour vous rassurer, principalement, parce que, encore une fois, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait autre chose qu'un coup d'émotion derrière tout ça.
La mère d'Anita ne dit rien. Ses bras en plastique le long de son corps d'à peine 40 ans, grand, large. Sa fille la regarde, l'infirmière la regarde, l'institutrice et l'instituteur la regardent, debout, leur corps étrangement proche et gêné de l'être. C'est à eux qu'elle s'adresse. Si vous êtes tous les deux ici, qui surveille les enfants ? La question de la mère d'Anita oblige les personnes enfermées dans l'infirmerie à se rendre compte que beaucoup de choses ont changé en l'espace d'à peine quelques minutes. La rumeur gronde dans le couloir. Des cris chuchotés, des bousculades et des piétinements. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Comment ont-ils pu ne pas s'en apercevoir avant ? La mère d'Anita a ouvert la porte sur la foule d'enfants qu'elle a dû traverser pour arriver jusqu'ici. Et si elle ne dit pas grand-chose, c'est aussi que le bruit que font les enfants dans le couloir, les yeux rivés sur la scène de l'infirmerie, est difficilement tenable, qu'il faut faire un effort pour parler et entendre. Mais ça, personne dans cette pièce ne l'avait remarqué avant cette question.
Qui surveille les enfants ?
L'infirmière est la première à être submergée par la vague, qui met quelques millièmes de seconde à atteindre les instituteurs dont les corps se raidissent. Toutefois, personne ne fait un pas ou un mouvement. C'est le temps, court mais qui s'étale, de la prise de conscience. Puis, des cris très aigus. C'est la directrice qui sort de son bureau. C'est incroyable aussi qu'il lui ait fallu tout ce temps pour franchir sa porte et aller voir ce qui se passait.
Peut-être était-elle en train de répondre à des courriers importants ou de consulter le site internet des assurances scolaires, inquiète au sujet d'Anita et des répercussions des événements.
Peut-être s'était-elle endormie à son bureau alors qu'elle s'était promis de profiter de l'après-midi de sport organisé pour sa classe par un éducateur extérieur à l'établissement dans la cour pour abattre de l'administratif.
Toujours est-il qu'elle s'est assurée ses entrées. Sa porte s'ouvre avec une vitesse telle qu'on penserait que son mouvement suffira à avaler les murs et les gens dans son sillage. Trois pas, bien assurés. À peine arrêtés, surplombant les petites têtes, sa bouche s'ouvre grand et sa voix de soprano sort avec la violence de l'eau trop longtemps contenue, roule, se répercute au mur, fait se rentrer les têtes dans les épaules. Les phrases importent moins que le ton et la puissance. Rien que des interrogatives et des exclamatives, des phrases qui se jettent en l'air, se collent les unes aux autres, ne laissant jamais la place d'une réponse, d'un soupir, d'un haussement de sourcils.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Où sont vos instituteurs ? Ah, ils vont m'entendre cela ! Qu'est-ce que vous regardez tous ? Vous savez pas vous tenir ? Retournez dans votre classe, et si ça ? Non mais, est-ce qu'on a déjà vu ça ? Pour qui ?
Les enfants s'éparpillent, comme des fourmis effrayées par le feu, et de la même manière entrent dans leur classe, dans un chaos savamment orchestré. Alors, la directrice pivote sur elle-même pour regarder ce qu'observaient les enfants renards et les enfants chats. De l'intérieur, tout le monde la regarde. Il y a les deux instituteurs, Blême et Agar, l'infirmière qui a l'air excitée et dont les lèvres tremblent, Anita, debout au milieu de la pièce, le t-shirt taché de sang, les yeux humides et un sourire étrange flanqué aux lèvres, et la mère d'Anita, semblant hésiter entre la colère et l'envie de partir, vite trouver refuge. Si la directrice pouvait, elle irait trouver refuge aussi. Elle pense à ces gros établissements d'élèves plus âgés qui doivent gérer des affaires de violence, de raquettes, de viol parfois, et se demande bien si elle aurait le cœur assez accroché pour ça. La directrice cherche ses mots, mais ne les trouve pas, d'autant qu'elle est en train de se concentrer pour ne pas tendre la main vers la mère d'Anita en vue d'une poignée salvatrice, ce qu'elle trouverait déplacé. Il lui faut dire quelque chose, aussi bredouille-t-elle.
Je ne sais pas, il faudra qu'Anita aille voir son médecin, et surtout, c'est surtout ça qu'il faudra faire pour voir...
La mère d'Anita la coupe, et d'une voix posée où rien ne transparaît de la peur qu'on lit dans ses yeux.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la cour ?
C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous et des autres.